victimes de leur succès. Alors que les déplacements des vacanciers sont encore limités pour la deuxième année consécutive, les sites touristiques français sont pris d'assaut. Dans les 11 parcs nationaux de France, dans les 56 parcs régionaux, la fréquentation explose. Bonne nouvelle pour l'économie locale, mais menace évidente pour l'environnement, la biodiversité, l'intégrité des écosystèmes concernés. Pour limiter la casse écologique, des espaces décident désormais de limiter l'accès aux touristes. Comme à Porquerolles, où une jauge d'accès a été fixée, seuls 6000 passagers quotidiens seront autorisés à prendre les navires pour se rendre sur l'île Varoise, alors que 12 000 venaient l'an dernier. Alors, faut-il interdire l'accès à la nature pour mieux la protéger, sélectionner les activités humaines qui empêcheraient de lui nuire, ou compter sur la responsabilité individuelle et collective? Voici les questions qui traverseront ce soir le temps du débat. Et pour évoquer ces relations entre l'homme et la nature, avec nous trois invités à distance que je remercie d'être là. Virginie Maris, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe et directrice de recherche au CNRS et vous travaillez en philosophie de l'environnement au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier. Et vous avez fait paraître La part sauvage du monde, penser la nature dans l'anthropocène. C'était au Seuil en 2018. Avec nous également Rémi Knafou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes géographe et professeur émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous êtes l'auteur en 2021 de Réinventer le tourisme, sauver nos vacances sans détruire le monde, et c'est aux éditions du Faubourg. Et enfin, Michael Weber, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France, maire de Vaulflin depuis 1995 et président du parc naturel régional des Vosges du Nord. Merci à tous les trois d'être là et bienvenue dans le temps du débat.
En Alaska, c'est là que je veux aller. Me perdre au fin fond du pays. M'enfoncer dans la nature, sans personne autour. Je veux plus me faire chier avec les horaires. Surtout pas de montre, ni de carte, ni de hache. Plus rien. Rien, je te dis. Rien que moi, tout seul, au milieu des montagnes, avec les rivières, le ciel. Les animaux, je veux me perdre dans tout ça. Et trop au cœur de la nature.
Hein? La vie sauvage.
Sauvage. Ouais.
Une fois qu'on est perdu loin de tout, on fait quoi, dis-moi? On fait quoi?
Je sais pas, moi, tu vis tout simplement, tu te contentes d'être là, de vivre le moment présent, de profiter de chaque seconde. À mon retour, je pourrais peut-être écrire un livre sur mon expérience là-bas, mes voyages, ouais. Comment j'ai quitté cette société, tu vois? La société!
Alors, il ne s'agissait pas d'un Parisien qui s'exprimait en cet été 2021, mais d'un extrait du film de Sean Penn, Into the Wild, sorti en 2008, et qui raconte l'histoire d'un homme organisant son retour vers la nature à l'écart de la société. Michael Weber, on commence par vous. À quel point l'envie de retour à la nature, ce tourisme vert, comme certains l'appellent, peut conduire à des dérives? Qu'est-ce que vous observez concrètement dans votre parc?
Ben disons que c'était déjà un mouvement qu'on avait perçu avant la crise sanitaire, c'est-à-dire que l'envie de faire du tourisme à la montagne ou du tourisme vert, ou ce que l'on entend dans ce petit extrait, hein, c'est-à-dire vivre une expérience quelque part originale, particulière, authentique, eh bien, s'est accentué effectivement avec la crise sanitaire, puisque beaucoup de nos concitoyens ne pouvaient pas partir à l'étranger, et donc on franchit le pas d'aller dans des territoires ruraux, dans des territoires qu'ils pensaient comme méconnus, pour essayer d'y découvrir du patrimoine naturel, du patrimoine culturel, et donc cela a un impact effectivement fort. Alors bien sûr, parfois positif hein, sur l'économie locale, sur l'hébergement, mais aussi négatif sur les espaces protégés qui sont particulièrement sensibles.
Concrètement, ça se passe comment? C'est-à-dire quelle dégradation vous observez?
Vous savez, pendant très longtemps, on a dit dans des territoires comme les nôtres qu'il y avait, par exemple, dans les Vosges Nord, des rochers particuliers à visiter, enfin à voir. Et finalement, on s'aperçoit aujourd'hui que tout le monde veut voir le rocher. Malheureusement, il abrite des nichées de faucons pèlerins. Donc, aller visiter des rochers ou être à proximité des rochers, ça dérange le faucon pèlerin, ça dérange sa reproduction. Et donc, c'est un impact direct sur l'environnement. Donc, on est aujourd'hui obligé de revoir notre communication, notre façon de faire du tourisme. Mmh. Les parcs naturels régionaux, ils sont sensibles, ils le souhaitent, en tout cas, de revoir les pratiques pour que ce soit l'ensemble d'un territoire qui soit considéré comme intéressant et non pas seulement des hotspots de tourisme ou de nature qui, eux, sont beaucoup plus fragiles et méritent beaucoup plus notre attention.
Rémi Knafou, vous vous parlez à ce sujet de tourisme de la dernière chance. Qu'est-ce que cela signifie?
Mais c'est un argument qui est apparu assez récemment dans les milieux des offreurs de voyages dans les milieux touristiques, finalement, faisant notamment référence au réchauffement climatique. c'est la manière dont le système touristique s'est saisi de ce thème désormais connu de tous pour le récupérer à son profit. C'est-à-dire que s'emparant de cette perspective que nous vivons du réchauffement climatique, bien il y a lieu, par conséquent, dans cette logique-là, qui me paraît une logique infernale, il y a lieu d'aller vers ces territoires de l'Arctique où la banquise fond, de l'Antarctique où également les mêmes phénomènes s'observent, mais à une échelle tout à fait différente, avant que tout cela ne disparaisse. Ce qui est évidemment un leurre, parce que c'est pas du tout la même échelle de temps, mais c'est montrer à quel point le système touristique est capable de s'emparer de tout pour relancer ou pour développer de nouveaux objectifs qui tendent à une forme d'hégémonie sur le monde.
Virginie Maris, selon l'Organisation mondiale du tourisme, 95% des touristes se concentrent aujourd'hui sur 5% des terres. Quel est l'impact de cette surfréquentation sur les écosystèmes ?
Déjà, on pourrait se dire que finalement, la surfréquentation des milieux naturels en France, suite au confinement ou en tout cas la limitation de la mobilité des touristes, ça a un impact écologique important, mais peut-être qu'à l'échelle globale, c'est tout de même un impact moindre que les départs en Tanzanie ou en Antarctique. Enfin, si tous ces touristes-là décident d'aller dans les écrins plutôt que de faire 6-8 000 kilomètres en avion pour soi-disant se reconnecter à la nature, finalement, c'est peut-être pas plus mal. Donc, une chose à questionner, c'est effectivement comment se rencontre ce qui est un petit peu dénoté dans cet extrait d'Into the Wild, un besoin, un sentiment de contact avec la nature ou de reconnexion avec les milieux naturels, etc. Comment ce besoin, ce désir rencontre des propositions touristiques qui sont en fait des propositions de tourisme de masse absolument incompatibles, non seulement avec le maintien des milieux naturels, mais même avec cette expérience de nature ou cet épanouissement lié à une reconnexion avec les milieux naturels. Donc voilà, 95% des touristes dans 5% des sites, ça me fait en tout cas diagnostiquer qu'on n'est plus du tout dans un rapport possible avec la nature parce qu'on est dans une massification de la fréquentation qui elle-même, on y reviendra, est probablement a un impact sur les milieux. Donc, ça a été évoqué, hein, le dérangement lié au passage à la surfréquentation, le piétinement. Il y a toutes sortes d'effets écologiques de cette fréquentation massive. Mais j'ai envie de dire, cette massification de la fréquentation, elle ne dégrade pas seulement les milieux naturels, elle dégrade la possibilité qu'on a d'avoir une expérience. Alors, quelques-uns diront de reconnexion, d'autres de sentiment de nature, d'autres d'harmonie avec le monde naturel. Les deux sont dégradés, les milieux naturels eux-mêmes et notre possibilité d'y expérimenter quelque chose d'épanouissant, de satisfaisant. Autrement dit, quand on se rend si nombreux dans ces milieux naturels pour avoir une expérience de nature, on se condamne à l'échec et à la déception parce que le sentiment de nature ne pourra jamais émerger de ces lieux surfréquentés.
Michaël Weber, on se retrouve aujourd'hui dans une situation paradoxale puisque certains sites touristiques français tentent de limiter l'afflux de touristes. Alors comment on fait pour limiter, justement, pour lutter contre la surfréquentation ?
Alors déjà, le fait que l'on limite l'accès, c'est une nouveauté, hein, puisque c'est, là aussi, vous l'avez bien dit dans votre introduction, c'est une pratique qui est nouvelle, parce qu'il faut bien aussi que les auditeurs comprennent que ce n'est pas pour que la nature puisse se régénérer, c'est simplement pour éviter, effectivement, que définitivement, par le piétinement, on porte atteinte à ces espaces naturels. Nous, on pense dans les parcs naturels régionaux, il y a différents systèmes de protection. Il y a des protections fortes. Les parcs nationaux sont plutôt des protections fortes, comme le sont parfois les réserves naturelles aussi. Nous, dans les parcs naturels régionaux, on fait le pari que l'homme et la nature ne s'opposent pas, qu'il n'y a pas une opposition de fait entre l'homme et la nature. On plaide pour un nouvel humanisme de la nature.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on justement on essaie d'éduquer et d'être des médiateurs entre ces hommes et ces femmes qui souhaitent justement se reconnecter avec la nature. En fait, on s'aperçoit qu'il manque ce lien de médiation parce que on met beaucoup de choses derrière ce mot, cette terminologie de nature, sans très bien savoir ce que c'est. C'est pas simplement quelque chose que l'on observe, que l'on admire, etc., ou que parfois on veut toucher ou qu'on veut sentir. C'est quelque chose que, pour lequel on doit avoir un énorme respect, mais qui est aussi, qui est lié à notre condition d'homme proprement dite. Donc, il faut absolument recréer de la médiation, faire de l'éducation à l'environnement. Et on en fait beaucoup pour les plus jeunes, mais il faut aussi en faire pour chacun d'entre nous, pour que, eh bien, cette pratique touristique, si elle est possible ou si on la rend possible, eh bien, elle se fasse dans le respect et évidemment sans avoir une emprise néfaste et définitive sur les milieux que l'on visite. Donc ça, c'est un élément qui est important pour nous. Mais bien sûr, cela passe aussi par la répression parfois. Il y a des parcs nationaux en particulier qui ont des gardes. On a aussi dans les réserves naturelles de France aujourd'hui des personnes qui sont assermentées pour éviter pour avoir effectivement une action pénale contre les personnes qui portent atteinte à ces milieux naturels. Donc c'est aussi important que de la loi, mais c'est pas notre premier axe de travail. Nous, on essaie de travailler vraiment pour de la pédagogie à l'attention des touristes, notamment comme on le fait à l'attention des habitants. Je rappelle que les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux, ce sont des espaces qui sont relativement vastes. On n'est pas dans des parcs nationaux qu'on appelle nous à l'anglo-saxonne comme Yellowstone, où vous avez un accès qui est limité dans un parc qui est fermé, etc. Là, on est sur des espaces qui sont très grands. Le parc des Vosges Nord, c'est 115 communes. Évidemment, on peut pas avoir la même action sur ces 115 communes que l'on aurait dans un parc anglo-saxon ou le parc de Yellowstone, pour reprendre cet exemple-là. Donc ça, c'est extrêmement important, mais c'est aussi une attente aujourd'hui internationale. Enfin, on est beaucoup sollicité à l'international parce que pour éviter parfois l'opposition qu'il y a entre les populations, parfois autochtones, et les milieux que l'on protège et qui sont toujours à proximité de lieux habités.
Alors justement, sur cette comparaison internationale, sur les parcs français versus les parcs américains, Rémi Knafou, est-ce que ces parcs, justement, sont de bons outils pour concilier les activités humaines, notamment le tourisme, et la préservation de la nature?
Ils ont été conçus pour ça, à l'origine. Et c'est d'ailleurs ce moment fondateur de création du premier, du plus ancien, qui est Yellowstone, qui marque finalement cette relation symbiotique entre la conservation de la nature et le tourisme. Parce que, je rappellerai brièvement, c'est à partir de 1870 que, ayant eu vent de manifestations absolument extraordinaires dans cet ouest lointain, encore très peu parcouru, des trappeurs seulement, des aventuriers, en dehors des populations indiennes qui y vivaient, évidemment, que les autorités américaines ont organisé, d'abord localement, puis ensuite nationalement, des expéditions menées par l'armée américaine pour aller voir comment ce site, ce que recélait ce site. Et donc, dès le début, les expéditions comprenaient non seulement des militaires, parce que c'était une terre hostile indienne, mais aussi des topographes, des géologues, et c'était un géologue qui menait l'expédition, mais aussi photographes, dessinateurs, peintres. Mm-hmm. Il s'agissait à la fois d'identifier ces merveilles extraordinaires, mais aussi on avait la préscience qu'il fallait les faire connaître au public et, dans le même temps, les soustraire au peuplement, à la mise en valeur. Et donc c'est en 1872 que ce parc de Yellowstone a été soustrait de l'activité par une loi fédérale et ensuite est devenu un parc national un peu plus tard. Mais donc c'est dans le même mouvement que ce parc a été identifié comme remarquable, a été protégé et a été promu. Et la promotion touristique a été assurée, c'est pas toujours très connu, mais par les sociétés de chemin de fer qui poussaient en même temps leur voie au même moment, qui avaient besoin d'attractions touristiques et qui se sont servis de ce parc et d'un accès ensuite direct au parc pour développer leur activité commerciale. Donc, initialement, la conservation de la nature et le tourisme sont d'un même mouvement.
Virginie Maris, si on entre dans le vif du débat, le vif du sujet, est-ce que vous pensez qu'il faut exclure l'homme de certaines zones pour protéger la nature ?
Déjà, si je peux juste revenir un petit peu en arrière sur ces parcs américains, et pour renforcer encore ce qui a été dit, c'est Frédéric Ducarme qui décrit très bien la façon dont finalement les parcs américains ont remplacé, entre guillemets, ce que pouvait produire en Europe le patrimoine architectural, le patrimoine bâti. C'est-à-dire qu'on arrive sur un continent effectivement jugé peu ou pas habité, et faute d'avoir des grandes cathédrales comme on peut en avoir en Europe, ben on va ériger ces monuments naturels qui sont souvent très minéraux, hein, qui sont pas nécessairement des hotspots de biodiversité, ou ces monuments naturels comme finalement les emblèmes du patrimoine américain. Et donc, de fait, ils sont pas simplement compatibles avec le tourisme, mais ils sont engagés directement dans une démarche récréative. Il s'agit que pour tout bon Américain, blanc, mâle, qui se respecte, d'aller passer sa semaine virile dans un parc, etc. Donc c'est important, et c'est important de le distinguer de l'esprit des parcs nationaux français, qui sont toujours des parcs, on va dire, de mise en valeur, de patrimonialisation de lieux qui, pour Français et Européens, qui pour la plupart sont déjà des lieux de cohabitation, coévolution entre certaines pratiques humaines et notamment certaines pratiques agricoles comme le pastoralisme ou comme l'activité salinière, le bocage, etc. Pour les parcs nationaux, c'est plutôt en montagne, donc c'est surtout le pastoralisme, et où plus que de créer des monuments nationaux naturels, il s'agit de préserver un patrimoine co-construit entre une certaine façon d'habiter les milieux et la richesse, la diversité naturelle de ces milieux eux-mêmes. Donc, je reviens là-dessus parce que, de fait, l'idée d'exclure les humains pour protéger la nature, ben, ça va énormément dépendre des contextes sociaux, écologiques, historiques et de ce qu'on veut protéger. Et quand on veut protéger une certaine biodiversité patrimoniale en moyenne montagne, par exemple, ben, l'exclusion des activités humaines va plutôt être considérée comme un problème, parce que ça permet l'ouverture des milieux, et via le pastoralisme, le maintien des milieux ouverts, et via ce maintien des milieux ouverts, tout un cortège à la fois floristique et faunistique associé à ces milieux-là. Donc déjà, de bien penser que l'idée d'exclure les humains, c'est pas propice quand on essaye de conserver un patrimoine qui est un patrimoine de coévolution entre certaines activités humaines et certaines dynamiques ou processus naturels. Après, pour venir rapidement à votre question, est-ce qu'il me semble approprié, pertinent d'exclure complètement les êtres humains? Pour le dire vite, et puis on en rediscutera, oui, je pense qu'on est dans des situations sur certains sites, pour certains processus, pour certaines espèces, dans des situations où la pression est telle, où l'anthropisation des milieux et surtout l'appropriation, l'accaparement des milieux et des ressources naturelles est allé tellement loin et tellement vite que aujourd'hui, il me semble que on a un devoir d'auto-limitation, et il y a certains types d'écosystèmes et peut-être même certaines espèces qui n'ont plus que quelques petits confettis, quelques petits refuges disponibles pour ne pas s'effondrer définitivement et sanctuariser ces lieux où parfois c'est pas des lieux mais c'est des temps. Et, l'exclusion n'est pas nécessairement spatiale. Parfois, il y a des moments
temporels.
Voilà, où ça vaut la peine d'interdire l'accès. Alors, disant cela, c'est un point de vue, on va dire, d'écologie par rapport à la préservation de certains milieux, certaines espèces. Mais disant cela, je pense que ce qu'il faut ouvrir à la discussion, c'est selon quelle modalité Avec quelle légitimité
on va justement y revenir,
ce genre de, d'interdiction ou de limitation.
On va justement y revenir dans quelques instants, mais avant ça, Michael Weber, dès la création des parcs régionaux français, au fond en 1967, il y avait la volonté de rendre compatible le développement économique local et la préservation de l'environnement. Est-ce que cela fonctionne concrètement ?
Alors écoutez, oui, on a fait à l'occasion des 50 ans des parcs une étude assez poussée avec l'Université de Grenoble pour savoir quel était l'impact des parcs naturels régionaux. Alors, on peut aujourd'hui considérer que, un, l'impact est positif sur la biodiversité parce que la plupart des parcs qui avaient comme objectif notamment de maintenir, voire de développer une forme de biodiversité ont réussi. J'ai parlé chez moi dans le parc des Vosges Nord du Faucon Pèlerin. Aujourd'hui, le retour de la cigogne noire, la chouette de Tengmal qui a pu être maintenue, mais je pourrais parler d'autres sites emblématiques, enfin d'autres parcs qui ont vu, je pense aussi au gypaète barbu qui est une espèce, un oiseau emblématique. Donc oui, de ce point de vue-là, ça a réussi. Ce qui est plus intéressant encore, c'est que dans les parcs naturels régionaux, on a plutôt que dans les autres territoires ruraux eu le développement de l'agriculture bio et proportionnellement, il y a plus d'agriculture bio dans les parcs naturels régionaux. Et puis ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de non-artificialisation des sols, de la lutte contre l'artificialisation des sols. Et l'étude a montré que dans les parcs naturels régionaux, sur des surfaces équivalentes, donc rurales qui n'étaient pas classées dans un parc, on a moins d'artificialisation proportionnellement dans les parcs naturels régionaux que dans les autres territoires. Et pour une raison simple, puisque vous l'avez dit, c'est aussi l'action de développement local. Quand on parle de patrimoine naturel et de patrimoine culturel, le patrimoine culturel, c'est aussi l'architecture, c'est aussi la rénovation du bâti ancien, c'est la sensibilisation justement à ce patrimoine-là. Et quand vous allez dans un parc, très souvent, vous avez des actions d'accompagnement avec des architectes du parc qui vont conseiller l'habitant pour de la rénovation de son bâti, pour la valorisation de son bâti, ce qui évite l'étalement urbain, ce qui évite la construction d'extensions, de lotissements autour des communes. Donc globalement, oui, l'action des parcs naturels régionaux, elle est plutôt positive. Et ce qui est aussi, à mon avis, intéressant, c'est qu'il ne faut pas se leurrer. Il est beaucoup plus difficile de parler de questions de biodiversité et d'environnement à des habitants qui habitent la campagne. Parce que à la campagne, on a le sentiment, vrai ou faux, et ça mériterait d'en discuter peut-être, d'être en contact permanent avec la nature. Vous allez vous promener en forêt, vous avez votre petit jardin, vous entendez les oiseaux dans votre jardin, etc. Donc quand on explique à ces habitants-là qu'il faut maintenir une biodiversité, qu'il faut mener des actions de préservation de la biodiversité, c'est beaucoup plus compliqué que quand on habite parfois la ville. Et donc ce qui est intéressant pour les parcs, c'est que justement je pense qu'il y a une prise de conscience de la part des habitants des parcs naturels régionaux, mais aussi des autres habitants, en se disant, bien là, je suis dans un territoire qui a conscience de sa spécificité, de la qualité de son patrimoine, et qui met des actions pour le maintien de cette qualité patrimoniale. Et ça, c'est déjà un élément pour moi, à lui seul, qui est extraordinaire, qui accompagne le mouvement actuel que l'on connaît de prise de conscience, et qui peut être un atout, effectivement, supplémentaire pour accueillir peut-être des populations nouvelles demain, je pense même aux habitants, puisqu'on a le retour de certains habitants, mais aussi de touristes qui voudraient avoir une expérience particulière avec la nature et pour lesquelles, encore une fois, nous aurions la possibilité d'être des médiateurs ou simplement de faire de l'éducation à l'environnement.
Alors Rémi Knafou, on voit bien en fait au fond sur ce sujet la tension qui existe entre la volonté parfois de mettre sous cloche certains espaces pour les protéger, pour les préserver, et la volonté d'autre part de sensibiliser des publics, de sensibiliser les citoyens pour qu'ils comprennent comment la nature fonctionne et comment la protéger. Comment on résout cette tension-là ?
Effectivement, il y a cette tension, mais elle est très différente selon les contextes, parce que on parle à juste titre, on est parti du contexte français ou européen, c'est-à-dire d'une mise en valeur extrêmement ancienne dans laquelle les environnements naturels ont été transformés depuis très longtemps, et qu'il faut absolument distinguer des grands espaces, par exemple américains, qui sont à une autre échelle, sur des territoires qui n'étaient certes pas vierges, d'ailleurs, où il y avait des populations, mais qu'on a par le même mouvement, qu'on a exclu, qu'on a fait disparaître du paysage pour montrer ces paysages présentés ensuite comme inviolés, mais c'est pas du tout la même échelle, ce sont pas les mêmes problématiques. On parlait de la Vanoise, c'est un peu plus de 300 000 visiteurs, Yellowstone, c'est 3 600 000 visiteurs, nous sommes pas du tout dans les mêmes contextes, et c'est pas les mêmes pressions, c'est pas la même culture non plus, c'est pas le même rapport à la nature, c'est pas le même rapport au wilderness qui est un sentiment aussi patrimonial américain très fort, ce rapport à la nature qui n'est pas du tout le même qu'en Europe. Donc, selon le cas, on résout les tensions de façon très différente, parce qu'entre un petit territoire comme Port-Crow ou les Calanques et un territoire comme Yellowstone qui est plus grand que la Corse, on voit bien que les problématiques sont totalement différentes. Le seul point commun, c'est un rapport à la nature qui doit être travaillé et qui d'ailleurs en plus est évolutif, parce que là aussi il y a des sensibilités qui changent. Ça fait partie du changement de nos sociétés.
Allez, on va poursuivre notre réflexion dans un instant pour tenter de savoir s'il faut interdire l'accès à la nature pour la protéger. Vous êtes en direct sur France Culture dans le temps du débat.
Vous ne pensez pas que c'est un peu antagoniste d'aller comme ça dans des milieux qui ne sont pas anthropisés ? Est-ce que vous n'avez pas peur que ça donne envie de générer plus de tourisme et que justement ça aille vraiment à l'encontre de votre démarche ?
France Culture.
C'est un paradoxe de montrer en effet des endroits qui sont pas du tout anthropisés comme vous le dites et il peut y avoir un écotourisme ou un tourisme un petit peu qui pourrait porter
préjudice
un petit peu à ces animaux.
Le temps du débat.
Même au niveau des voyages, c'est vrai que c'est aussi un paradoxe de prendre un avion, de traverser l'Eurasie pour aller aussi loin. Pour quelle raison ? On peut avoir aussi des émotions tout aussi fortes dans nos forêts de France.
Quentin l'a fait.
Ça suffit, les chimères, les illusions suffisent. Ça suffit. On a le réel et on n'est pas foutu de le conserver. On est dans le plus beau musée et nous sommes les pires conservateurs. C'est affreux. C'est ça que la panthère nous dit, c'est calmez-vous, cessez de vouloir les lendemains, occupez-vous de conserver cet extraordinaire joyau qui s'appelle le monde.
Il s'agissait d'un extrait de la matinale de France Inter qui recevait Vincent Munier et Sylvain Tesson pour la sortie de leur ouvrage. Comment fait-on, Virginie Maris, au fond, pour créer des espaces protégés là où l'homme se trouve déjà ?
D'abord, on pourrait se demander. Alors, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup des parcs naturels régionaux, qui sont en fait des outils un peu de planification territoriale où on essaye à l'intérieur d'un territoire qui a une certaine cohérence à la fois sociale, économique, écologique, planifier le développement pour qu'il soit compatible avec la préservation du patrimoine naturel et culturel. Donc là, on est vraiment en plein dans des territoires habités. Et moi, honnêtement, quand je vois un peu les chartes de PNR, je me dis, mais ce que font les PNR aujourd'hui, les parcs naturels régionaux, c'est ce qu'on devrait faire sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire, étant donné le niveau d'urgence écologique, climatique, étant donné la folie de l'artificialisation des sols, de la surutilisation des pesticides, du déboisement, en tout cas des plantations, de l'industrialisation de l'exploitation forestière, etc. Ce qui se fait dans un PNR, ça devrait nous servir de modèle partout. Et j'ai presque envie d'aller jusqu'à dire même dans les villes. C'est-à-dire des développements harmonieux, respectueux des autres qu'humains avec lesquels nous partageons les milieux, etc. Donc ça, c'est une chose. Mais quelque part, pour moi, c'est un outil de planification économique, territoriale, qui devrait s'appliquer idéalement dans l'ensemble de nos activités et sur l'ensemble de nos territoires. Mmh. Après, la question des parcs nationaux ou des réserves nationales est plus compliquée, parce que là, on a vraiment pour objectif de préserver un patrimoine naturel, en général, qui est identifié parce que il y a une richesse, par exemple, dans le cas de Porquerolles dont on a parlé, des niveaux d'endémisme, il y a des espèces qu'on trouve là-bas, qu'on trouve nulle part ailleurs, qui sont extrêmement menacées, etc. Et effectivement, comment faire ? Premièrement, essayer de améliorer les pratiques. Quand il y a des pratiques de pâturage, si on a du surpâturage, essayer de trouver des systèmes économiques qui permettent aux bergers, aux producteurs, aux éleveurs, d'être rémunérés correctement sans augmenter en permanence leur cheptel, ou en accompagnant, c'est très clair pour le retour de certains prédateurs, en accompagnant le retour de certaines difficultés, de certains ennemis, entre guillemets, de leurs activités traditionnelles avec des dispositifs d'aide, que ce soit matériel, économique, etc. Donc premièrement, il faut d'abord aider les gens qui sont là à cohabiter d'une façon à peu près harmonieuse ou satisfaisante avec la biodiversité qu'on souhaite protéger. Ensuite, il y a aussi, on reste dans le contexte français hexagonal, il y a aussi des lieux qui sont des réserves intégrales où on a décidé d'exclure toute fréquentation humaine et toute activité humaine. Alors, je pense par exemple à Porquerolles, je crois que c'est la première. Il y a deux îles dans le parc national de Porquerolles qui sont des réserves intégrales. Mais dans d'autres parcs nationaux, on a historiquement la réserve du Lovitel dans les Écrins. Et puis maintenant, une nouvelle réserve intégrale qui va naître, qui naît en ce moment, qui est la réserve d'Antrone dans le parc du Mercantour. Donc là, on choisit un site et on en exclut tout type d'activité, y compris la fréquentation touristique récréative. Et comment le faire? D'abord, on le fait à travers tout un processus réglementaire de désignation de sites et de réglementation sur une réserve intégrale. Et après, comment faire pour que ce soit satisfaisant? Et c'est un défi parce que effectivement ça peut sembler être une forme punitive d'interdiction d'accès, d'appropriation, souvent par des pouvoirs qui sont considérés comme des pouvoirs venant d'en haut. Dans le cas des parcs nationaux, c'est l'État. Dans d'autres initiatives qui sont plutôt des initiatives privées, ça va être considéré comme les urbains qui s'approprient des lieux et qui en excluent finalement les locaux historiques. Ça crée des tensions énormes et c'est pas satisfaisant. Évidemment, j'ai pas une réponse, une recette pour éviter ça. Mais il me semble qu'un des travaux à mener, c'est d'essayer de construire un sentiment collectif de sanctuarisation. C'est-à-dire que la sanctuarisation, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais qui est complètement, dont on a complètement retiré la dimension spirituelle, collective, affective. Et on parle de sanctuarisation plutôt de façon négative pour dire la mise sous cloche. Le mot est revenu plusieurs fois.
Pardon, excusez-moi.
Allez-y. Ouais.
Non, je vais finir, pardon. Je vous en prie.
Non. Et donc, c'est une sorte de solution un petit peu d'urgence qui a été appliquée jusqu'à présent. Mais il me semble qu'il y a une nouvelle phase à inventer dans cette envie de préserver des milieux totalement, dans cette envie finalement de décoloniser certains espaces, cette envie de déprendre la terre pour renouer avec de la libre évolution, de la spontanéité des milieux naturels, de la souveraineté des espèces autres qu'humaines sur leur territoire et tout ce qui s'ensuit. Il faut qu'on arrive à investir ça d'une façon différente et j'ai envie de dire d'une façon qui vienne d'en bas, qui vienne des communautés habitantes, qui permettent de valoriser par les habitants eux-mêmes cette richesse que représente un sanctuaire, un lieu non occupé, non exploité, non parcouru.
Alors Michael Weber, justement sur ce même sujet, comment est-ce qu'on fait concrètement pour associer les populations locales à la décision de protéger certains sites? Comment on fait pour éviter que la décision soit prise d'en haut, tout simplement?
Alors d'abord, je me réjouis d'entendre que effectivement ce que proposent les chartes de parcs naturels régionaux devrait être étendu à tout le territoire. Et j'y souscris évidemment, même si les mesures que l'on prend sont souvent des mesures qui sont elles-mêmes après reprises par, je pense en particulier aux intercommunalités, sans doute pas suffisamment. Et pour dire aussi que la démarche commence à apparaître dans les villes, puisqu'on a maintenant des parcs naturels urbains qui sont sur les mêmes démarches du développement local à des échelles donc infra-urbaines. Et ça me semble effectivement intéressant. Pour revenir effectivement sur cette question, moi je suis tout à fait convaincu convaincu aussi que c'est une démarche qui doit venir des habitants ou des communautés, quoi. Pourquoi je le dis ? Parce que finalement, on s'est rendu compte que quand la démarche de parc naturel régional a été mise en place, ça a été justement une démarche ascendante, c'est-à-dire une prise de conscience de la part des acteurs locaux, que sont les élus locaux, et parfois les entreprises, puisqu'on a toujours les chambres de commerce et d'industrie, le monde agricole, le monde de la chasse, et les habitants eux-mêmes, puisqu'à un moment donné, la réforme, elle a aussi demandé à ce qu'il y ait une enquête publique pour les chartes de parcs naturels et régionales. Et donc, c'est cette démarche-là qui est construite, qui est co-construite avec l'ensemble des acteurs, qui construisent ensemble un projet de territoire sur une durée de 15 ans, puisque je rappelle que les parcs naturels et régionaux ont une durée de 15 ans, et que c'est le seul système d'organisation territoriale qui exige une évaluation avant de pouvoir lancer une nouvelle procédure de maintien du classement d'un parc naturel régional. Donc tous les 15 ans, même entre-temps, on est évalué sur les objectifs à atteindre. Et dans ces objectifs cibles, il apparaît aussi bien des critères qui sont des critères environnementaux que des critères liés au patrimoine culturel, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a quelques années, on a par exemple lancé ce qu'on appelle, enfin on a appelé les habitants à définir dans certaines communes de certains parcs qui étaient les premiers à le faire, des sanctuaires de nature. Et comme c'était dit à l'instant, j'étais moi-même inquiet pour le dispositif, parce que le sanctuaire, c'est quelque chose qui effectivement peut-être déroutant et parfois inquiétant à certains égards. Et on s'est aperçu que, au contraire, c'était une action qui était tout à fait, que les habitants prenaient en main. Étaient tout à fait heureux de pouvoir définir eux-mêmes ce qui, à leurs yeux, semblait être un sanctuaire nature. C'est pas forcément le lieu le plus emblématique en termes de nature, mais c'est le lieu auquel les habitants d'un village, par exemple, sont attachés, parce que ils représentent, ils rassemblent à leurs yeux ce qui peut être un sanctuaire de nature. Et je trouve que c'est tout à fait intéressant pour les habitants, pour les enfants des écoles, les gamins que l'on ramène dans ces lieux-là et qui sont des lieux de pédagogie, etc. Donc, cette prise en main de la question environnementale, de la façon dont on y répond à une échelle peut-être de la communauté, du village, du territoire, je pense que c'est extrêmement intéressant. Et en tout cas, c'est ce pourquoi les parcs plaident. Et je crois qu'aujourd'hui, ils ont particulièrement un écho face à la situation que l'on vit singulièrement actuellement.
Allez, on s'éloigne un instant de la France, puisque Rémy Knafou, vous avez formulé dans votre dernier ouvrage la proposition de sanctuariser l'Antarctique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez dire par là et surtout pourquoi ?
Alors, l'Antarctique est un continent qui présente, du point de vue que je défends, l'énorme avantage d'être inhabité. Donc là, l'initiative ne peut pas venir des habitants, mais doit venir des instances internationales. Il est inhabité, il est inapproprié, même s'il y a des revendications territoriales. Et donc, on ne peut pas, dans le cadre de l'Antarctique, où le tourisme se développe assez rapidement, un tourisme de croisière, voire de survol par des avions, on ne peut pas invoquer ce qui peut être invoqué dans d'autres lieux, légitimement, c'est-à-dire quand ce qu'on développe du tourisme, ça provoque, ça permet un enrichissement. Là, il n'y a pas de retombée économique, en tout cas pas pour la population locale, puisqu'il n'y en a pas. Donc, en plus, c'est un continent dont la dimension symbolique est extrêmement forte aussi, parce qu'il est au cœur des préoccupations lorsqu'on parle de réchauffement climatique. Et donc, je proposais, puisque l'ouvrage que j'ai écrit s'inscrit dans une collection où il faut faire des préconisations pour lancer des débats, donc je proposais que la sanctuarisation de l'Antarctique soit mise en avant, de façon à ce que le tourisme, qui est un tourisme en plus qui vient de très loin, c'est-à-dire que les pays émetteurs de touristes qui fréquentent l'Antarctique, c'est l'hémisphère nord. Mmh. C'est 10, 12, 15 000 kilomètres pour se rendre là. C'est en plus très consommateur de non seulement de kérosène, mais émetteur de CO2. Ça induit aussi d'avoir à développer des bases régionales loin de tout pour approvisionner tous ces navires, les équiper, etc. Donc tout ça me paraît tout à fait déraisonnable et s'inscrit dans une démarche que je propose qui est plus large encore, où à côté de ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire de répondre à des surfréquentations, prêter une attention particulière à ce qui se passe dans les endroits où il n'y a pas encore beaucoup de tourisme, mais où le tourisme essaye de pousser ses avantages, ce qui est le cas en Antarctique, comme c'est le cas en Arctique, avec le développement de petits navires. Là, c'est pas des super navires, des navires géants de croisière avec 5 ou 6 000 passagers, c'est des navires avec 200, 300, 400 passagers, qui vont s'insinuer partout dans des endroits qui ne sont, où le tourisme n'est vraiment pas indispensable. Ça paraît quelque chose de déraisonnable et qui exploite ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire cet argument du tourisme de la dernière chance, avec des arguments qui sont en général d'une assez grande duplicité, puisque c'est au nom de sensibiliser les publics à des milieux en danger qu'on amène de plus en plus de personnes pour assister à la fonte de la banquise. Tout ça ne semble pas raisonnable. Or, c'est ce vers quoi nous allons, parce que les navires qui sont en mesure de fréquenter ces lieux sont de plus en plus nombreux. Ils s'en lancent tous les jours pour des compagnies variées, y compris françaises d'ailleurs. Donc voilà pourquoi je propose la sanctuarisation de ce type d'espace. Et je donne un dernier argument, c'est qu'il me paraît, qui est tiré de mon expérience en tant que chercheur ayant travaillé sur le tourisme et en particulier sur l'histoire longue du tourisme depuis le XVIIIe siècle, c'est qu'il ne faut pas simplement prêter attention aux lieux de surfréquentation, mais prêter attention au processus naissant. Parce que, on le voit bien, lorsqu'on met le doigt dans l'engrenage touristique, après, il est extrêmement difficile de s'en sortir. Et donc, ce qui est important souvent, c'est pas le 10 millionième touriste, mais ce sont les 100 premiers, parce qu'ils ouvrent la voie à tous les autres.
Alors Virginie Maris, justement sur cette notion de sanctuarisation de l'Antarctique, mais aussi de certains lieux, qu'est-ce que ça vous évoque ?
Bah, je trouve ça très important de signaler ces nouveaux fronts touristiques et qu'effectivement, avant le tourisme de masse, il y a l'industrie du tourisme qui va sans cesse chercher des nouveaux fronts. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait réussir à faire, c'est à répondre à ce besoin et même à susciter ce besoin de contact avec la nature, de connaissance des milieux naturels, sans aller les chercher et sans érotiser l'exotisme des terres australes ou des forêts tropicales. Et ça, j'ai l'impression que premièrement, ça va répondre à un enjeu écologique, un moindre impact écologique, climatique cette circulation des gens en contact avec la nature. Et puis, ça pourrait aussi répondre à un enjeu social, un enjeu de justice sociale, à savoir que l'accès à la nature ne soit pas un accès, un privilège lié notamment aux moyens économiques de prendre l'avion, le bateau ou que sais-je, mais qu'on arrive à distiller ça dans nos vies, en milieu périurbain, dans les forêts. Donc voilà, de se dire qu'on a besoin d'être en contact avec la nature, on ne la préservera pas si on ne l'aime pas, on ne l'aimera pas si on ne la connaît pas, et pourtant, il va falloir trouver des moyens de la connaître, de l'aimer et de la protéger avec un contact modeste, commun, quotidien et ordinaire des milieux naturels qui sont déjà fantastiques autour de nous.
Michael Weber, pardon, très très brièvement, parce qu'on arrive malheureusement à la fin de cette émission. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction au fond à protéger en France les sites qui paraissent beaux aux yeux de l'homme alors qu'au fond la nature se trouve partout ?
Oui, peut-être que la contradiction elle existe, c'est vrai, mais je pense que voilà, c'est une prise de conscience. Je crois que chacun aujourd'hui, quand il veut vivre cette expérience en contact avec la nature, peut s'émerveiller de la nature au quotidien. Et moi, j'appelle tous les touristes, les habitants, à juste regarder la nature avec respect et à se dire que l'homme est un élément de cette nature-là. Protéger la nature, c'est se protéger soi-même.
Eh bien, merci pour cette conclusion et merci à tous d'avoir évoqué ce thème important. Virginie Maris, je rappelle que vous êtes philosophe et chargée de recherche au CNRS. Rémi Knafou, vous êtes géographe et professeur émérite des universités à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne. Michael Weber, vous êtes président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France, maire de Vauphelin depuis 1995 et président du parc naturel régional des Vosges du Nord. À la préparation ce soir, les naturalistes Roxane Poulain et Anna Fulpin, ainsi qu'Aliette Ovine, Vincent Marcelin et Audrey Dugas. À la réalisation, c'était Louise André et à la technique, Félix Delacour.